Bonsoir à tous. Donc la BPI est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle rencontre du cycle L'écho du monde, cycle de rencontres en économie qui a débuté en novembre 2021 pour se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Cycle que nous avons monté avec l'économiste Éloi Laurent. Donc ce soir, nous sommes très heureux de parler de santé et d'environnement. Je remercie chaleureusement Catherine André d'avoir accepté de modérer cette soirée. Donc Catherine André est journaliste, elle est rédactrice en chef adjointe d'Alternatives économiques et surtout, elle est cofondatrice du site d'information en ligne que je vous recommande, qui s'appelle Vox Europe. De site d'information avec des journalistes de l'Europe entière et qui traitent de sujets européens. Donc Catherine vous présentera nos trois intervenants de ce soir, Jody Sauré, André Cicolella et Julien Codeville, que je remercie également. Malheureusement, Éloi Laurent, avec qui nous avons donc monté tout ce programme de rencontres, ne pouvait pas être des nôtres ce soir. Aussi, il a enregistré une introduction pour vous présenter les grands axes sur lesquels nous avons travaillé tous ensemble. Merci à vous.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Éloi Laurent, je suis économiste, enseignant-chercheur à la fois en France et aux États-Unis et j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour ce nouveau cycle de conférences de la BPI, l'écho du monde. Et je voudrais vous dire en quelques mots quelle a été l'idée qui a présidé à l'organisation de ce cycle de conférences qui essaye de proposer une vision un petit peu nouvelle et enthousiasmante de l'économie qui peut être un sujet un petit peu austère, rebutant, voire un petit peu intimidant. L'économie, c'est deux choses essentiellement. D'un côté, c'est un système d'organisation sociale, c'est une part des interactions humaines qui porte principalement sur les transactions marchandes, la monnaie, c'est-à-dire l'échange de biens et services qui ont un prix et qui peuvent être échangés sur les marchés. Et de l'autre côté, donc ça c'est l'économie comme système économique, et de l'autre côté, l'économie c'est une façon de comprendre le monde, une discipline intellectuelle, ça n'est pas une science, c'est une discipline, c'est un moyen de connaissance, c'est donc la pensée économique, au sens de la pensée qui permet non seulement de comprendre l'économie, mais aussi, dans les décennies récentes, de comprendre d'autres réalités. Et le paradoxe auquel nous assistons de façon tout à fait claire en France, c'est que l'économie, dans ses deux acceptions, est dominante. Elle est dominante dans l'organisation sociale. Il semble que les impératifs économiques s'imposent à tous les autres, par exemple aux contraintes écologiques, ce qui est évidemment un paradoxe, puisque on comprend d'emblée que les lois de la biophysique sont quand même beaucoup moins flexibles que les lois d'organisation des sociétés humaines. Et de l'autre côté, l'économie, au sens de la pensée économique, elle-même dominée, si l'on peut dire, par une école de pensée qui est une école qui considère que l'économie est une science qui a à offrir au monde des lois universelles, à l'image de la physique et de la chimie, qui peuvent s'appliquer de manière équivalente partout, à tout instant, pour tous les groupes humains. On a donc une économie dominante en tant qu'organisation sociale et dominée par une forme particulière de pensée qui est ce qu'on pourrait appeler l'économie orthodoxe. Ce cycle de conférences propose de sortir de cette double mythologie, de sortir de cette mythologie de l'économie dominante et de l'économie dominée pour comprendre que l'économie est une discipline tout à fait utile à la connaissance du monde à condition d'être remise à sa place. Et sa place, depuis les origines de l'économie à la fois comme pensée et comme système, c'est d'être en dialogue avec les autres disciplines. Si on reprend les origines de l'économie, on remonte à Aristote et à Xénophon au IVe siècle avant notre ère. Xénophon définit l'économiste comme celui qui administre un domaine agricole. Aristote définit l'économie comme la discipline d'allocation de ressources rares dans un foyer. Et Aristote définit l'économie comme l'art de la sobriété pour répondre au bien-être humain. Et Aristote ailleurs définit la finalité de l'existence humaine comme étant le bonheur. Autrement dit, Aristote, au IVe siècle avant notre ère, définit l'économie comme la discipline de la sobriété au service du bonheur. On est très très loin de la science de la concurrence au service de la croissance. Donc remonter aux origines de la pensée économique permet de comprendre à quel point l'économie dans la période contemporaine s'est éloignée de sa propre tradition intellectuelle. Ce cycle de conférences propose de revenir à l'essence de l'économie, c'est-à-dire la coopération pour le bien-être en dialogue avec les autres disciplines. Et c'est pour cette raison que les quatre thématiques qui vous seront proposées au cours des prochains mois, à raison d'une conférence tous les deux mois, vont systématiquement, les conférences, mettre en dialogue deux notions. La première, le climat et la croissance. La deuxième, la confiance, les inégalités sociales. La troisième, l'Europe et le bien-être. La quatrième, la santé et l'environnement. Pour ouvrir les thématiques économiques, notamment sur la réalité fondamentale du XXIe siècle, qui est la réalité écologique. Donc il y a déjà un dialogue en termes de thématiques. Et systématiquement, ces conférences associeront des économistes, dont je suis, je ne peux pas être parmi vous, mais bien entendu, j'ai contribué au fait qu'on puisse inviter les gens qui vont pouvoir vous éclairer ce soir sur ces thématiques. Il faut à la fois des économistes, il y en aura systématiquement, mais aussi d'autres chercheuses et d'autres chercheurs d'autres disciplines, parce que c'est comme ça que l'économie est vraiment intéressante. Il y a quelque chose de nouveau dans cette proposition qui est faite dans ce cycle de conférences, qui est véritablement à la fois de remettre l'économie à sa place, parce que l'économie a besoin de revenir à sa place, elle ne peut pas envahir entièrement tout le champ social, et en même temps d'ouvrir l'économie sur le monde et sur les autres disciplines. Et c'est précisément le pari de l'intelligence collective que vont vous proposer ces conférences.
Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous ici présents et présentes, et bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent en direct à distance. Donc, je suis ravie de modérer ce débat donc sur cette quatrième conférence débat santé et environnement, sur ces deux notions donc nous allons mettre en rapport et interroger ce soir dans le cycle L'écho du monde. Et j'ai grand plaisir à vous présenter donc nos trois intervenants du débat de ce soir. Donc, Julie Sauret, vous êtes chargée des relations avec les pouvoirs publics et chargée de la campagne sur la pollution de l'air à l'UNICEF France. Je vous passerai la parole dans deux minutes. Ensuite, donc à votre droite, André Sicolella. Vous êtes chimiste, toxicologue et chercheur en santé environnementale, ainsi que président du réseau Environnement Santé. Et enfin, donc à votre droite, Julien Côteville, chargé de projet et d'expertise scientifique à l'Agence nationale de santé publique. Et vous êtes également enseignant-chercheur au CNAM. Donc nous allons commencer par vous écouter tous les trois, nous présenter le fruit de vos recherches et de vos travaux sur le thème de ce soir, sachant que les nouvelles priorités économiques se posent de façon avec une acuité très particulière, notamment depuis la pandémie, qui nous a rappelé avec fracas et force combien la santé des écosystèmes, l'environnement en général et la santé humaine sont extraordinairement liées. Peut-être ça a servi de révélateur et on verra si ça peut pousser à aller un peu plus vite et un petit peu plus loin dans la réflexion et dans la place de l'économie dans tout ça. Je vais tout de suite vous passer la parole, Julie Sauret, puisqu'on va démarrer en fait avec l'axe pollution de l'air, qui est un des éléments constitutifs de l'environnement, pas le seul. Nous allons commencer parce qu'il y a des rapports très récents et très précis que vous allez nous présenter. Je vous remercie.
Bonsoir à tous. Avant toute chose, merci d'être là. C'est vrai que c'est un sujet qui est important. En effet, je travaille pour l'UNICEF. Comme vous le savez certainement, l'UNICEF est présent dans 190 pays dans le monde, avec une mission, avec des missions qui sont assez variées, mais qui en général se rapportent aux droits de l'enfant. Donc le droit de l'enfant notamment à vivre dans un environnement sain, à être en bonne santé. Et justement, la question de la santé est un sujet très important à l'UNICEF depuis sa fondation. Et c'est vrai que ces dernières années, la question de la santé environnementale est devenue de plus en plus importante pour nous, puisqu'on s'est rendu compte, évidemment, que la santé des enfants dépendait fortement de l'environnement dans lequel ils vivent. C'est évident, mais surtout, on a vu avec la dégradation de cet environnement la dégradation de la santé des enfants, et donc une nécessité à mieux y répondre. Mais alors, à mieux y répondre en accompagnant les États, parce que c'est notre rôle, les gouvernements, à mieux comprendre ce qu'étaient ces dégradations et la façon d'y répondre, mais aussi mieux le comprendre, parce que il y a eu ces derniers temps un certain nombre de choses qui ont, on va dire, éveillé les consciences sur le lien entre la santé et l'environnement. Mais je dois dire qu'on vient quand même d'assez loin. En tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là, même en interne, puisqu'en fait, les sujets dont je vais vous parler ont été poussé portée par certains pays en particulier, qui ne sont pas forcément ceux où il y a le plus de pollution, mais on a vraiment réussi, ou le plus de problèmes de santé environnementale, on a vraiment réussi à faire remonter cette préoccupation qui est assez forte dans les pays riches notamment, à faire prendre conscience qu'en fait c'était dans le monde entier qu'il fallait avoir ce regard-là sur les enjeux de santé environnementale des enfants. Et justement, il y a un rapport qui est sorti la semaine dernière, un rapport de notre centre de recherche Innocenti, qui se situe à Florence, et qui s'est intéressé justement à la question de la santé, du monde dans lequel les enfants évoluent, et de l'impact, notamment de l'environnement, sur leur santé. Disons que ce rapport, il n'est pas très très joyeux, je vous le dis tout de suite, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, ce rapport, peut-être pour préciser, ce rapport, il s'intéresse plus spécifiquement aux pays de l'OCDE, donc quand même plutôt des pays qui sont parmi les pays les plus riches. Et le premier constat, c'est qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui d'offrir un environnement sain aux enfants qui grandissent sur leur territoire. Donc, dans leurs frontières, ils ne sont pas capables, y compris des pays très riches, d'offrir un environnement qui soit exempt de polluants, qui risque notamment d'avoir des impacts sur la santé de ces enfants. Donc déjà, ce premier constat, il est quand même assez inquiétant. Mais deuxième constat, au moins aussi inquiétant, c'est que ces pays riches, ils ont un impact très grave sur la santé des enfants dans le reste du monde, et notamment la santé des enfants dans les pays pauvres. Et dans ce cas-là, ça devient doublement préoccupant. Parce qu'en fait, le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a une part très, très, très minime d'enfants qui grandissent sans que leur santé soit affectée par l'environnement et surtout par la dégradation de l'environnement. Donc, ce rapport était quand même assez fort, et notamment pointé les enjeux de surconsommation, en disant bien que la surconsommation de la part des habitants des pays riches était en train de rendre malades les enfants des pays pauvres. Donc, quand on parle d'aide au développement, de solidarité internationale, il faut aussi prendre ces enjeux-là en question, parce que les choix que nous faisons, les choix que font nos gouvernements, ont un impact à des milliers de kilomètres. Et il ne suffit pas ensuite de donner des millions pour l'aide publique au développement si, par ailleurs, on ne s'intéresse pas à ces questions-là. Donc, c'est vraiment un changement profond qu'il faut accepter, surtout si on veut, et ça, je me demande parfois si on le veut vraiment, c'est faire le mieux pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants... Alors, certains me disent, quand je les rencontre, oui, mais en fait, personne ne s'intéresse vraiment aux enfants parce que les enfants ne votent pas. Et puis, d'autres, je ne sais pas s'ils sont plus cyniques ou plus pragmatiques, me disent, oui, mais les enfants, ils n'ont pas de carte bleue, en fait. Ils n'achètent pas. Donc, par moments, je ne sais pas vraiment vers quelle raison je penche, mais le fait est qu'on a du mal à mettre les enfants au centre de nos décisions, alors que pourtant, c'est le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui, c'est le présent, mais c'est l'avenir aussi. Et c'est aussi l'avenir de leurs enfants. Donc ça, c'est aussi une préoccupation très forte chez nous, et c'est notamment l'importance de donner plus de place aux enfants et de leur laisser plus d'espace aussi pour participer. Parce que comme je le dis, les enfants, ce n'est pas le futur, c'est le présent aussi. Et sauf que ce présent, il n'est pas forcément tout rose, y compris pour leur santé. Et donc ça me mène à parler de la question de la pollution de l'air dont nous nous sommes saisis depuis 2019 à l'UNICEF France. Alors finalement, 2019, c'est bien tardif pour s'en saisir, mais bon. Mieux vaut tard que jamais. En tout cas, on l'a fait, et on l'a fait avec beaucoup d'énergie, parce que c'est un sujet qui est important, qui était complètement sous le radar. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, y compris en interne, on m'a dit « Mais pourquoi la France, c'est pas le pays où les enfants respirent l'air le plus pollué ? Oui, mais il y a d'autres problèmes, il y a des enfants qui sont pauvres, il y a des enfants... » Oui, d'accord, en fait. Mais il n'empêche que c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup traité. Et la question de la vulnérabilité des enfants n'est pas suffisamment prise en compte aujourd'hui. Ça s'améliore, il y a une prise de conscience, mais notamment dans les échanges avec les pouvoirs publics, je me rends compte que bien souvent, il y a un vrai travail de prise de conscience à faire sur la vulnérabilité spécifique des enfants et l'importance d'agir pour les protéger. Quand je parle de vulnérabilité spécifique, je parle bien de la particularité d'être enfant, à savoir d'avoir un organisme en plein développement, notamment jusqu'à 7 ans, toute la période pendant laquelle les poumons se développent. Et on sait bien que l'exposition, notamment à la pollution de l'air, mais aux autres pollutions, à vrai dire. Ce que je veux dire pour la pollution de l'air pourrait marcher aussi pour d'autres types de pollution. Mais pour la pollution de l'air, on s'aperçoit que l'exposition de la femme enceinte, donc de l'enfant dans le ventre de sa mère, puis de l'enfant en bas âge, de l'enfant à 7 ans et même de l'adolescent, va avoir un impact sur l'enfant, et en fait des impacts qui sont graves mais qui sont durables. Donc ça veut dire que pendant tout l'âge adulte, il y a de forts risques que ces enfants-là conservent certaines pathologies. Alors je parle de l'asthme, je parle des allergies, je parle d'un certain nombre d'allergies qui peuvent être très graves, parfois doublées avec des problèmes de dermatite, de l'eczéma. Mais en fait, pendant très longtemps, on a pensé pollution de l'air, donc problématique pulmonaire, ou vraiment toute la zone respiratoire. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, il y a des études qui font le lien avec un risque accru de développer de l'obésité, du diabète, des dépressions. Donc, c'est fortement préoccupant. Pour autant, c'est encore, comme je le disais, trop peu pris en compte. Et puis, à l'UNICEF, on a aussi une attention particulière, notamment dans les pays riches, pour les enfants pauvres, pour les enfants qui vivent en situation de pauvreté. Parce qu'en fait, on sait que systématiquement, et c'est vrai pour les enjeux liés à l'environnement, ce sont toujours les plus pauvres, que ce soit les pays ou au sein des pays, sont toujours les plus pauvres qui vivent les impacts des changements le plus durement. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette question-là, et le rapport que nous avons sorti en octobre dernier arrivait à plusieurs constats. Donc on a voulu déjà savoir si les enfants pauvres dans les grandes villes étaient plus exposés que des enfants plus favorisés à la pollution de l'air. La réponse est non, pas systématiquement. Les enfants pauvres ne sont pas systématiquement plus exposés à la pollution de l'air, tout simplement parce que les grandes villes dépendent aussi d'une histoire de l'urbanisme qui fait que parfois, pour des raisons différentes à Lille, à Lyon ou à Paris, certaines populations riches peuvent vivre dans des endroits qui sont très pollués. C'est notamment le cas à Paris. Pour autant, ce qu'on observe, c'est que bien souvent, quand il y a des poches de pollution, ce sont plutôt des endroits où vivent des personnes pauvres, donc des familles pauvres, et donc souvent l'école est à proximité, surtout dans les grandes villes, du domicile, et donc on va vivre dans un quartier pauvre, étudier dans un quartier pauvre, avec finalement le risque d'être vraiment doublement exposé, ou en tout cas tout le temps exposé. Donc ce premier constat, c'est pas systématique, mais on constate pour autant que quand un enfant pauvre est exposé à une forte pollution de l'air, ça va être beaucoup plus difficile pour sa famille de l'y soustraire. Pourquoi ? Bah parce que c'est pas facile de changer d'appartement, c'est pas de changer de maison, c'est beaucoup plus compliqué même de partir en week-end, donc de s'extraire pendant quelque temps d'un milieu pollué quand on vit dans une famille pauvre. Et puis il y a un mouvement aussi qu'on n'a pas pu très bien objectiver mais qui nous a semblé quand même être important, c'est qu'avec la prise de conscience des méfaits de la pollution de l'air sur la santé des enfants et des personnes en général, il y a un risque que finalement les plus conscients, les plus sensibilisés, donc souvent les plus riches, partent de ces quartiers-là, et que ça devienne des quartiers pour les pauvres. Donc si on n'agit pas et si on n'utilise pas nos politiques publiques pour enrayer ce type de phénomène, le risque c'est que cette tendance aille en s'accroissant. Et puis, l'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce que finalement l'exposition à la pollution de l'air est plus grave pour un enfant pauvre que pour un enfant riche, si je caricature un peu. Et la réponse est oui. Parce qu'en fait, les enfants qui vivent en situation de pauvreté vont tout au long de leur enfance, et même, comme je le disais, à partir du stade fœtal, avoir beaucoup plus de facteurs négatifs, entre guillemets, on parle d'exposome, mais pour le dire plus simplement, de facteurs négatifs qui vont s'accumuler dans leur vie et qui vont faire que quand ils se retrouvent face à la pollution de l'air, ils sont plus fragiles, ils sont plus vulnérables. Donc finalement, une fois qu'on fait ce constat-là, ils ne sont pas toujours plus exposés, mais c'est plus difficile de s'en extraire de l'exposition à la pollution de l'air. Et lorsqu'ils sont exposés, les méfaits sur leur santé sont beaucoup plus graves, notamment parce que généralement leur alimentation est moins bonne, ils peuvent être exposés à plus de stress, la qualité de leur habitat est moins bonne. Tout ça fait que ces enfants, finalement, vivent un peu une double peine, en fait. Donc, partant de ces deux constats, on a souhaité faire un appel assez fort à une prise de conscience, notamment dans les politiques publiques, pour faire en sorte que cette transition écologique, dont j'aime pas forcément trop le mot, mais en tout cas ces changements qu'on doit mettre en place, notamment pour mieux prendre en compte les enjeux de santé et d'environnement, de santé environnementale, qu'on place aussi l'enfant au cœur. Parce que on parle d'économie ici. Aujourd'hui, on a l'impression que lutter contre la pollution de l'air, ça coûte cher. Mais en fait, c'est aussi qu'il y a tout un tas d'impacts, notamment de la pollution de l'air et des autres pollutions, qui en fait ne sont pas pris en compte aujourd'hui. C'est toutes ces externalités négatives dont on parle en économie et qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui dans le système. Et pourtant, l'addition, elle est très très chère. Elle est très chère en termes individuels. C'est des enfants, comme je vous le disais, qui vont avoir des pathologies tout au long de leur vie, mais aussi sur le plan économique, parce que ça coûte à la société en fait de ne pas prévenir ce type de problème et de devoir ensuite les soigner tout au long de la vie. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour ces premiers constats et puis peut-être revenir plus tard sur les recommandations.
Juste une toute petite question, oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on mesure bien aujourd'hui l'augmentation du niveau de la pollution, c'est-à-dire l'aggravation de la situation ou pas? C'est-à-dire, est-ce que, mais bon, peut-être que vous pourrez répondre, c'est une question en tout cas que je me posais,
c'est une question qui est toujours un peu compliquée, enfin je vais y répondre très rapidement. Dans les grandes villes, il y a des mesures qui sont quand même mises en œuvre pour lutter contre la pollution de l'air. Et en fait, si on en croit Atmo France, la fédération des associations qui surveille la qualité de l'air, on nous dit que la qualité de l'air va plutôt en s'améliorant. Mais pourtant, on peut constater que l'asthme est en augmentation partout dans le monde. Et plus globalement, on constate que c'est quand même assez socialement différencié, l'asthme. Voilà, et c'est ça que j'allais dire.
Prenez le micro parce que sinon on ne vous entend pas.
Mais pollution de l'air, il y a pollution de l'air intérieur.
Exactement.
Et c'est curieux hein, comment l'attention a été portée sur l'air extérieur, comme s'il n'y avait pas de pollution dans l'air intérieur. Or, l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur, c'est ce que je vais évoquer aussi tout à l'heure.
Oui, c'est pour ça que rapidement, ça s'améliore l'air extérieur, mais il faut bien voir que ces problèmes de santé environnementale ne se règlent pas pour autant, parce qu'il y a aussi toutes les autres expositions à d'autres pollutions. Et notamment la pollution de l'air intérieur qui, c'est vrai, attire moins l'attention et pourtant est un sujet absolument fondamental puisqu'il contribue notamment à faire que la santé des enfants pauvres est plus fragile, notamment tous les enjeux d'exposition à la moisissure, à l'humidité en intérieur, et c'est un sujet important. Je vous cède la parole sur ce.
En effet, des multiplicateurs. Je vous avais déjà le micro, je vous laisse la parole tout de suite, André Sicolella, avec peut-être effectivement, vous allez élargir la focale un petit peu sur la notion en abordant la notion d'environnement, au-delà donc de la pollution de l'air qui joue un rôle, comme on l'a vu, très délétère. Merci.
Alors, voilà. Oui, parce qu'il faut regarder, on regarde l'environnement effectivement. En fait, à partir des années 70, on fait un ministère de l'environnement. Ça n'existait pas avant. Hein. Donc, le ministère de la Santé a été créé plus tôt, lui. Hein, 1919. L'environnement, c'est 71. Donc, il faut un certain temps pour comprendre qu'il y a un premier lien, enfin, un enjeu autour de l'environnement. Mais le lien entre santé et environnement va commencer à être pris en considération. En fait, la première conférence européenne, c'est 1989. Voilà. Qui passe totalement inaperçu. Hein. Conférence OMS Europe et Union européenne. On va bientôt avoir la septième édition. Voilà. Donc pour situer l'enjeu, considérer l'environnement de façon globale, il faut regarder le problème avec l'entrée par les maladies. Et principalement les maladies chroniques. Alors je pense que voilà. Donc et ce constat a été fait au niveau mondial récemment en fait. Hein. Le premier plan mondial date de 2008. Halte à l'épidémie mondiale de maladies chroniques, c'est la plaquette grand public faite par l'OMS au niveau mondial. J'ai extrait effectivement une phrase.
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, l'Organisation mondiale de la santé. Une phrase de Richard Horton, qui est toujours rédacteur en chef du Lancet, la grande revue effectivement scientifique de référence. L'épidémie mondiale de maladies chroniques a été largement ignoré ou sous-estimé par rapport à d'autres problèmes de santé. Alors oui, parler d'épidémie et de maladies chroniques, les gens me disent encore, mais enfin, l'épidémie, c'est forcément une épidémie infectieuse. Non. Le mot épidémie, c'est développement considérable de maladies. Et là, plus qu'une épidémie, d'ailleurs, c'est une pandémie, elle est présente sur tous les continents. Et donc l'Assemblée générale de l'ONU va faire un premier vote en 2011. Elle parle d'un défi mondial d'ampleur épidémique, principal défi pour le développement durable. Il ne se passe rien, en fait. Hein. Tout le monde va voter, mais il ne se passe rien. 2018, l'Assemblée générale de l'ONU remet le couvert et dit, à partir des objectifs du développement durable définis en 2015, objectif 2030, mortalité prématurée par maladie chronique de 30%, arrêt de la progression de l'obésité et du diabète. Obésité, diabète, ce sont des maladies chroniques, ce sont des maladies environnementales. Mais il faut définir l'environnement de façon globale. Et on a aujourd'hui une preuve encore supplémentaire de l'importance de la crise sanitaire dans laquelle on est. C'est le Covid qui nous amène cette vision que Richard Horton, lui aussi, a repris dans son éditorial d'octobre 2020. C'est une syndémie. Alors, vous voyez, épidémie, pandémie et syndémie. Syndémie, ça veut dire effectivement une épidémie, une pandémie qui se développe, mais avec un impact beaucoup plus important parce qu'elle va frapper des populations humaines touchées par d'autres facteurs environnementaux. Et notamment, j'ai repris ici cette étude faite par la Caisse nationale d'assurance maladie et la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui, comme ils le disent modestement, c'est une étude qui n'a pas fait de bruit, hein, ils disent modestement, on a pris un échantillon de 67 millions de personnes, on a pris tous les Français quand même, hein, et on a regardé effectivement chez les malades chroniques l'impact du Covid. Donc pour 47 maladies chroniques, sur 47 maladies chroniques investiguées, pour 46, on a une augmentation du risque d'hospitalisation et de décès, et pas à la marge. Vous voyez, obésité multiplié par 2,4, 2,6, diabète par 2 ou 2,1, insuffisance cardiaque 2,5, 2,8, maladie respiratoire 1,9, 2, cancer du poumon, alors là n'en parlons pas, troubles psychiatriques, là aussi ça va, le décès multiplié par 8, voyez. Et tout ça, cette crise révèle l'ampleur de la pandémie qui était sous-jacente et dont on n'a pas encore pris la mesure de façon suffisamment conséquente, et alors qu'on a tous les chiffres. On a tous les chiffres. Alors je vais rester principalement en France. Et ces chiffres, moi, je regarde les chiffres de l'assurance maladie. Je regarde les affections de longue durée. Vous savez, quand vous avez une maladie chronique plus sérieuse, quoi, assez grave, eh bien, vous êtes couvert à 100%. Parce qu'évidemment, les coûts engendrés par la maladie sont importants. Donc ça, c'est une partie. Hein, c'est la moitié à peu près des maladies chroniques. Et donc, vous voyez, les malades chroniques... maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, si on regarde ça, les maladies cardiovasculaires, c'est AVC, artériopathie, insuffisance cardiaque, maladie coronarienne. On a retiré l'hypertension il y a à peu près une dizaine d'années, qui faisait partie de la LD numéro 5, numéro 12, pardon. On a enlevé d'un coup, comme ça, 1 million de personnes qui étaient en ALD.
Pourquoi ?
L'hypertension.
Mais pourquoi ?
Eh bien, parce que on a réduit le nombre de malades. Si c'est plus, en ALD, c'est plus une maladie. Vous êtes d'accord ? Donc voilà. On a considéré que c'était pas une maladie, que c'était à la fois un symptôme. Bref, un tour de passe-passe, et on a réduit le nombre de malades chroniques. C'est formidable. Il n'empêche qu'en gardant effectivement les chiffres, en éliminant effectivement l'hypertension depuis 2003, vous voyez la progression. Maladie cardiovasculaire, 96%. La population a changé de 8%, entre les deux, hein, 8%. Diabète, 107%, cancer, 62%. Alors on nous dit, voilà, l'argument, mais la population vieillit. Donc quand on vieillit, forcément, on a des maladies. Alors on va regarder ça. Quand on regarde par tranche d'âge, on regarde l'incidence, hein, le nombre de nouveaux cas. Parce que c'est ça qui est important. Alors la prévalence, c'est une bonne chose. Les gens sont mieux soignés, quand même, globalement. Donc il y a moins de décès. Bon, c'est très bien. Mais l'incidence, c'est les nouveaux cas. Donc, il n'y a pas le système de soins qui agit à ce niveau-là. Donc, ça nous donne l'indication. La population n'a pas changé, hein, 8% de progression. Regardez, les moins de 60 ans, bah, la population des moins de 60 ans en 14 ans a bougé de 1%. Donc, ça n'a quasiment pas bougé. Néanmoins, la progression maladie cardiovasculaire, diabète et cancer, plus 50%. 50%. Les 60-74 ans, là on est dans la catégorie des vieux, hein, alors 119% de progression, mais la population a progressé de 37%. Ah, ça va beaucoup plus vite. Alors les plus de 74 ans, j'en fais partie, vous voyez, 138% de progression, mais la population a bougé que de 30%. Alors à partir de ça, vous expliquez que tout est lié au vieillissement. Je vais vous donner un autre argument, si je ne vous ai pas encore convaincu. Les affections de longue durée, 0-19 ans. 0,19 ans. Là, vous pouvez me dire que c'est des vieux, là. 0,19 ans. Et les 0,19 ans en 2003, les 0,19 ans en 2019, c'est toujours des 0,19 ans. Vous êtes d'accord ? Suivez le raisonnement, hein. La population a progressé de 3%. Et regardez, le cancer, il a progressé de 18%. Alors, j'ai fait un petit calcul, règle 3. L'évolution, à population égale, 14%. C'est du 1% par an. Et ça, c'est observé dans tous les pays du monde. 1% par an.
Que ce soit ville ou campagne, c'est-à-dire que c'est vraiment là, c'est toute la population.
Ah, oui, attendez, on va revenir après, parce que ça, c'est évidemment, après, il y a des... Non, mais ça, c'est l'augmentation moyenne, finalement. Hein. Maladie cardiovasculaire, progression de 42% à population égale. 42% à population égale. Le diabète, progression de 66%. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais c'est un problème d'enfance, ça va se régler avec l'âge. J'ai la réponse, n'ayez crainte. regardez, 20-39 ans, progression du cancer. Alors là, la population a baissé de 7%. Donc on a une progression, la population inchangée, de 39%. Vous voyez, 39% en 16 ans. Les 20-39 ans, vous le considérez que c'est un signe de vieillissement de faire un cancer à 20 ans ? Non, personne ne va considérer ça comme normal, entre guillemets. Maladie cardiovasculaire, progression de 57%, le diabète, progression de 96%. Et ce n'est pas 3 cas d'un côté, 4 cas de l'autre. On est, vous voyez, à 14 000 cas de diabète. Alors après, ça va continuer. Hein. Je ne vais pas reprendre ça par étrange d'âge, mais quand on regarde l'obésité, qui est un des grands pourvoyeurs, effectivement, de ces maladies chroniques, ce n'est pas la seule, mais c'est... Regardez, on a ce travail qui a été publié il y a quelques années, qui montrait... Dans la génération née entre 1918 et 1924, on arrivait au taux de 10% d'obèses dans cette génération, lorsque cette génération a eu 76 ans. Elle est, dans la dernière génération étudiée, 1980-1986, ce taux d'obèse était atteint lorsque cette génération a eu 28 ans. Donc il y a un phénomène lourd, en fait, hein, qui va effectivement se traduire. Alors l'obésité est considérée comme une maladie, mais elle impacte notamment, il y a un lien avec le diabète, un lien avec les maladies cardiovasculaires et même aussi le cancer. Vous voyez la progression du diabète en Île-de-France et en France, c'est spectaculaire. Entre 1997 et 2015, voilà une progression, on l'a doublé, en fait. Hein. Voilà, c'est une progression spectaculaire qu'on va retrouver au niveau mondial. On était dans les années 80 à 100 millions à peu près de diabétiques. Aujourd'hui, on est à 550 millions. Et ce n'est pas uniquement un problème de pays riches, et ça vous l'avez observé. C'est toute la planète qui fournit ce contingent de diabétiques. Alors, j'avais sur cette diapo, j'avais une indication. Alors, c'est l'alimentation ultra transformée, notamment, joue un rôle extrêmement important. Vous voyez, les consommateurs de bio, ben, ils ont 35% de diabète en moins. Voilà, ça, c'est... Donc c'est effectivement un élément qui va... déterminant. Quand on regarde le rapport annuel de l'assurance maladie, le rapport charge et produit, que je lis toujours avec beaucoup d'attention, elle nous dit effectivement, ça c'est le rapport de 2017, hein, plus d'un assuré du régime général sur trois vit avec une ou plusieurs maladies chroniques, soit près de 20 millions de personnes, un effectif en constante croissance. Alors là, les ALD, c'est celles qui sont les plus graves, puisqu'elles sont prises en charge à 100%, mais il y a d'autres maladies chroniques qui ne sont pas encore prises en charge à 100%.
Donc, affection de longue durée.
Voilà. Et donc, c'est néanmoins, ça progresse. Un assuré sur trois. Après, quand on regarde dans ce rapport de 2017, on avait la progression sur 2012-2016. Donc dépenses totales, alors ça c'est intéressant, mais l'effectif, c'est principalement l'effectif qui augmente et qui explique la croissance des dépenses. Qu'il s'agisse des maladies cardiovasculaires, du diabète. Alors le cancer, en partie, c'est lié beaucoup, de plus en plus impressionnant des traitements, parce qu'il faut quand même voir aussi que cette épidémie de maladies chroniques, elle génère effectivement, c'est très bon pour le PIB par exemple. C'est dommage qu'Éloi Laurent ne soit pas là, parce que c'est vraiment une excellente nouvelle pour le PIB. Ça peut même faire progresser l'industrie pharmaceutique, ça crée de l'emploi, c'est formidable. Donc, sauf que, vous voyez, ça se paye quand même à un moment. Maladie psychiatrique, là aussi, une progression de cette nature. Donc, dépenses liées surtout à la croissance des effectifs. Si on regarde le cancer, j'avais le coût moyen en 2016, c'est 1 740 euros. Voilà, un surcoût, 2016-2004, 6,9 milliards d'euros. Voilà. Donc on a effectivement des surcoûts totaux extrêmement élevés en termes de plus de 44 milliards pour les diabètes, même chose. La Caisse nationale de l'assurance maladie, dans son rapport de 2019, nous fait une projection 2030. Et donc si on regarde la croissance entre 2012 et 2018, c'est sur la base d'une croissance à 3%. Et elle nous dit, bon, à partir de 2018, ça va passer à 2,5%. Pas tout à fait exact, mais enfin, bon, on reprend son calcul et on fait la somme et on voit effectivement qu'on aura dépensé en 10 ans 120 milliards d'euros en plus. Voilà. Vous voyez, le coût économique devient extrêmement élevé. Et donc, j'en termine là d'ailleurs. Voilà. Donc l'environnement dans tout ça, c'est effectivement, ça n'est pas... Cet argument qu'on entend qui est présenté comme allant de soi, l'espérance de vie progresse, on vieillit, c'est normal, on est de plus en plus malade, c'est faux. On ne peut pas expliquer cette croissance uniquement par le vieillissement. Et puis l'autre argument, le deuxième argument auquel il faut tordre le cou, c'est l'espérance de vie qui progresse. C'est quoi l'espérance de vie ? Ça, on ne l'explique jamais, ça. Quasiment jamais. Quand on nous dit l'espérance de vie... Ah là, elle est un peu baissée, là. Mais l'espérance de vie, on calcule comment ? On dit, voilà, un enfant qui naît aujourd'hui, on fait l'hypothèse que lorsqu'il aura 80 ans, il aura le taux de mortalité de la génération qui décède actuellement à partir de la génération des 80 ans. Mais ça, on n'a aucune... On ne sait pas du tout quel sera l'environnement dans 80 ans. Voilà. Et tout ça, c'est une hérésie, d'ailleurs, de faire le calcul de cette façon. On ne connaît pas. Ce qui a changé de façon extrêmement importante, c'est l'environnement, justement. Les gens qui décèdent aujourd'hui, plus de 80 ans, 90 ans, ils sont nés avant-guerre, dans un environnement totalement différent, notamment la contamination chimique, la pollution. La pollution était de nature totalement différente, d'ailleurs. Hein, c'était la pollution des cheminées d'usine. Alors, problème sérieux, hein. Mais la pollution chimique, notamment, on est passé de 1 million de tonnes dans les années 45 à aujourd'hui 350 millions de tonnes. Et puis ça va continuer, d'ailleurs. Hein. La chimie n'a pas de limite, donc elle continue de progresser avec un coût sanitaire de plus en plus impressionnant. Voilà. C'est pour ça que l'environnement, il faut le voir de façon globale. Alors après, il faut regarder, effectivement, les différents facteurs d'environnement. Mais l'alimentation est un environnement. L'environnement social, évidemment, va contribuer. L'environnement physico-chimique, évidemment, la pollution de l'air extérieur, la pollution de l'air intérieur, la sédentarité qui a transformé effectivement la vie sur toute la planète, et puis l'interaction. Ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on n'avait pas les moyens de connaître, d'ailleurs. Mais Julien, je vais lui passer le relais. L'interaction entre ces différents environnements, c'est la clé. C'est ce qui nous permet de comprendre que des phénomènes repérés à bas bruit ont finalement, globalement, un impact considérable sur la santé humaine. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il y a un enjeu scientifique pour arriver à quantifier le plus possible cet impact. Effectivement, vous avez évoqué le mot exposome. L'autre élément important... qui est relativement récent, ça va faire 30 ans quand même, on sait avec l'exemple notamment des perturbateurs endocriniens que l'exposition, qu'il y a des périodes sensibles à l'exposition aux facteurs de risque environnementaux, l'exposition pendant la grossesse induit un impact sur la santé de l'enfant, mais la santé des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. On a la preuve aujourd'hui, alors on a eu des preuves par expérimentation animale. Vous donnez du bisphénol A à des souris, à des rates gestantes, vous induisez de l'infertilité chez les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils. Et pourquoi ? C'est très surprenant. Hein ? Une exposition de courte durée pendant la grossesse va impacter la santé de votre, la fertilité de votre arrière-petit-fils. C'est quand même impressionnant. Moi, quand j'ai été formé, c'est parce qu'on m'a enseigné, d'ailleurs. Hein ? Au début, je n'y croyais pas, d'ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de croyance, on a toutes les données scientifiques. On a même un concept beaucoup plus large, que le concept de perturbateur endocrinien, c'est le concept de DOAD. Alors celui-là, on n'a pas encore réussi à le mettre dans le débat public. C'est l'origine développementale de la santé et de la maladie. On sait qu'effectivement, l'addition des stress chimiques, nutritionnels et psycho-affectifs. Donc il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Bon, on s'en doutait un peu, mais on le découvre et on a toute la preuve, et ça se passe par l'épigénétique. L'autre mot clé, c'est le mot épigénétique. On a cherché à tout expliquer par la génétique. Tout était dans les gènes, très curieusement. Hein. On n'avait plus rien à faire, on était programmé. Oui, on a des gènes, mais ce n'est pas ça qui est essentiel. L'important, c'est comment l'environnement agit sur nos gènes. Et ça s'appelle l'épigénétique. Il y a des marqueurs. L'environnement dépose des marqueurs sur l'expression de nos gènes, des marqueurs qui sont transmis de génération en génération. Et donc, c'est un concept scientifique solide dont on n'a pas tiré aujourd'hui toutes les conséquences. Et c'est pour ça que la santé environnementale, c'est essentiel. On a des systèmes de santé qui se sont construits dans l'après-guerre, à partir effectivement d'un paysage épidémique qui a été celui de l'épidémie infectieuse. Et on a progressé. On a progressé. Aujourd'hui, il y a quand même des piqûres de rappel de type zoonose quand même. Hein. Mais enfin, on ne meurt plus de la variole, on ne meurt plus du choléra dans nos pays en tout cas. Et donc l'enjeu, c'est effectivement de comprendre que comment l'environnement d'une façon générale impacte notre santé et diminue notre espérance de vie. Parce que là, actuellement, on est dans une période où ça commence à fluctuer. Mais quand on voit les jeunes générations de plus en plus impactées par ces maladies chroniques, il faudra s'imaginer que ça va s'arrêter à 19 ans ou à 39 ans. Hein. C'est en train de progresser et on n'arrête pas, c'est un paquebot. Hein. On n'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Donc vraiment, il y a un vrai enjeu politique de transformer nos systèmes de santé, qui sont des systèmes de soins, Alors on nous dit, ah oui, mais il faut développer la prévention. On va avoir un ministère qui va s'occuper de la prévention. Ça, très bonne nouvelle. On aurait mieux fait de dire, on va faire un ministère de la santé environnementale. On pose un acte politique fort. On va s'occuper, et je proposais effectivement de faire un ministère de la santé environnementale auquel on rattacherait la direction générale de l'alimentation. On ne voit pas pourquoi la direction générale de l'alimentation est rattachée à l'agriculture. Certes, les agriculteurs fournissent la matière première, mais enfin, l'alimentation, c'est un problème de santé. C'est surtout un problème de santé. Donc on rattache la DGL au ministère de la Santé environnementale, on rattache la consommation. La consommation, c'est un problème de santé en priorité. Vous voyez, c'est ça les choix politiques à faire aujourd'hui. Et je ne vais pas être plus long parce qu'on reviendra certainement sur tout ça.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Finalement, on a quand même, je dirais, un niveau de connaissance de plus en plus fin, à la fois des différents types de pollution et de l'impact, évidemment, on l'a vu là, tous les chiffres que vous avez donnés, très, très, très graves sur la santé humaine. Et donc, on parle de santé environnementale. Et qu'est-ce qui manque, finalement, pour... peut-être, je ne sais pas si vous voulez embrayer et répondre en partie, mais qu'est-ce qui manque pour...
Il manque la volonté politique.
Il manque simplement la volonté politique.
Là, le constat, vous voyez, le rapport charge et produit de la Caisse nationale, je vous assure, ça se lit. Moi, je le lis avec délectation. Je dois être un des rares, d'ailleurs, à y trouver de l'intérêt, parce que les députés, les sénateurs sont censés le lire. Oui. Ils ne le lisent pas. Et il y a toujours une phrase qui est là, en début, hein, qui dit, voilà, ça progresse, mais c'est lié au vieillissement. Et hop, c'est... Enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'alerter un certain nombre de députés en disant, mais faites attaquer cette question-là. Ce n'est pas le vieillissement qui explique cette croissance. Vous avez
vous l'avez bien démontré. Oui,
donc il faut effectivement, après, comment on s'attaque à ce problème. Et après, c'est les outils scientifiques à mettre en avant pour
aussi
comprendre.
Aussi pour changer la mesure dont Julien Caudeville, vous travaillez notamment sur la question des outils.
Moi, je travaille donc à Santé publique France où on produit des indicateurs de santé pour orienter la décision publique. Et alors, je coordonne le programme de surveillance des pathologies en lien avec les perturbateurs endocriniens. On traite des données de santé, comme l'a montré André. Et puis, juste avant d'arriver à Santé publique France, il y a un an, je travaillais sur les inégalités environnementales. Là, à l'inverse, je manipulais des données environnementales pour caractériser l'exposition et l'impact sanitaire. Du coup, je vais reprendre votre question. Alors, est-ce qu'il manque une volonté politique? Et pour faire aussi un petit peu le lien avec les conférences précédentes, où on rappelait que on était dans des sociétés qui étaient fondées sur la croissance, sur le travail, mais sur la consommation, et l'économie était devenue impératrice. Elle ne se substituait en rien. Et il n'y a qu'à voir, en gros, les arbitrages entre l'économie et la santé et l'environnement, même si maintenant on a un Premier ministre qui est en charge de l'environnement, et on verra ce que ça donne. Cette croissance étant toujours alimentée par donc, le PIB, un sujet cher à Éloi Laurent, qui intervient donc à la fois comme indicateur, mais en tant qu'objectif des politiques économiques structurelles. Du coup, il est devenu performatif. Il faut qu'il augmente, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il en coûte, sachant que ce PIB, alors s'il n'est aveugle, il est au moins borgne au bien-être et à la soutenabilité de l'économie et des écosystèmes, quoi. Du coup, on a pu montrer l'accélération, enfin une corrélation entre les taux de croissance et le dérèglement climatique depuis la révolution industrielle. Et du coup, les différentes crises ont pu nous montrer que un système économique qui oublie les bases de l'environnement est autodestructeur et sape la biosphère. Du coup, c'est pas tant la croissance qui fondent les sociétés, mais bien la coopération et les liens sociaux. Et c'est les enseignements du GIEC, les enseignements des rapports sur la biodiversité qui nous montrent que est-ce que la soutenabilité va être maintenue dans les prochaines décennies pour la population. En tout cas, on va vivre moins bien. Et c'est également l'expérience du Covid. Alors, du coup, André le rappelait. Alors, le Covid, du coup, ça fait intervenir le concept de One Health, où on fait interagir la santé des écosystèmes avec la santé animale et la santé humaine. Et du coup, alors bon, c'était en discussion, mais maintenant, donc, c'est plutôt le scénario zoonose lié à la destruction des écosystèmes qui rapproche des populations animales avec des populations humaines qui a transféré du coup ce virus.
Est-ce que vous pouvez un tout petit peu développer ce contexte, ce concept de One Health qui me semble être au cœur du débat?
Oui.
C'est
l'interconnexion de la santé des écosystèmes, de la santé animale et de la santé humaine. Et effectivement, alors, en santé environnement, c'est plus un concept qui est décliné sur les maladies infectieuses. Mais comme le rappelait André tout à l'heure, finalement, les premières victimes du Covid, alors au-delà des classes d'âge élevées, c'est beaucoup des cas de morbidité liés aux maladies chroniques et maladies chroniques qui sont de plus en plus suspectées liées à l'environnement, alors moins écosystème, mais pollution chimique, pollution physique, etc. Donc on a une plus grande interrelation, en tout cas, de nos schémas et de nos concepts, avec notamment l'intégration de l'exposome. Et du coup, c'est ces indicateurs-là qu'il faut peut-être proposer en alternative au PIB pour justement mieux orienter les politiques et s'accorder un peu plus aux besoins des populations. Quand on fait des enquêtes dans le monde entier sur ce que veulent les gens, alors c'est rare quand ils parlent de croissance nationale en général, et c'est vrai à peu près partout, c'est plutôt la santé et les liens sociaux. Et du coup, en alternative au PIB, les indicateurs de santé environnement permettraient de répondre assez bien à ces problématiques de bien-être et de soutenabilité. Du coup, c'était également des réflexions qu'avait mené Éloi Laurent dans son avant-dernier livre sur Et si la santé guidait le monde, avec une proposition à ce que l'espérance de vie se substitue au PIB. L'espérance de vie reflétant alors à la fois des problématiques environnementales, génétiques, des dimensions sociales et économiques intégrant le système de soins et la gouvernance associée au système de soins. Et le Covid nous a montré ô combien potentiellement il pouvait y avoir des crises dans la crise. L'espérance de vie est un indicateur assez formel et assez pratique pour justement mesurer l'impact des crises écologiques et puis les inégalités sociales. Et c'est vrai qu'à partir de ces réflexions sur le PIB, il y a eu plusieurs propositions d'enrichir des dimensions sociales et puis de santé, enfin épouser avec des indicateurs les concepts de développement durable. Mais ces différentes initiatives ont jamais percolé au niveau du public, en fait. Et c'est vrai que du moment que le public, les médias, les experts ne s'approprient pas ces indicateurs, finalement, ils n'arrivent pas à se substituer au PIB.
On n'arrive pas de quelle façon ? Parce que là, pour le coup, on revient à la question de la volonté politique de quelle façon, où est-ce que ça bloque ? Est-ce que ça bloque vraiment chez les citoyens ou est-ce que c'est...
C'est un peu plus large que les citoyens. Oui. Mais bon, normalement, à la fin, les citoyens votent et du coup, ils sont censés installer les politiques pour lesquelles ils ont adhéré au programme. Donc,
par rapport aux études que vous avez nommées précédemment, c'est un peu contre-intuitif finalement, puisque la santé, le bien-être et les relations sociales sont à chaque fois données en premier lieu dans les enquêtes et de plus en plus fréquemment, je pense.
Oui, mais bon, il y a une acculturation à faire pour justement permettre au public de s'approprier ces indicateurs, de les faire valoir et de les pousser au centre des politiques.
Là, vous travaillez sur ces indicateurs. Est-ce que vous avez la sensation que la pandémie a aussi servi donc de révélateur et peut-être pourrait permettre de passer ce, enfin de changer un peu de braquet par rapport à...
On voit des grandes évolutions. Effectivement, la pandémie a quand même pas mal changé les choses. Alors, du coup, le plan national santé environnement numéro 4, qui a commencé en 2019, jusqu'alors n'avait pas ces indicateurs. Et du coup, là, avait pour ambition d'intégrer des indicateurs qui permettraient de faire une photo au début et une photo à la fin pour voir si effectivement la situation s'était améliorée. Et c'était des thématiques qui étaient alors portées par des associations et qui étaient demandées par les administrations centrales qui faisaient justement le. Enfin, qui devaient faire ces évaluations et qui n'y arrivaient pas faute d'indicateurs. Mais c'est effectivement bien les associations qui ont porté ces thématiques et qui ont réussi à les inscrire. Donc voilà, du coup, alors, j'avais coordonné un groupe de travail dans le cadre de ce PNSE4 pour proposer la méthodologie qui visait à évaluer du coup, un indicateur composite en santé et environnement. Et du coup, on s'était rassemblé avec une dizaine d'experts, alors des agences, et puis des administrations, et puis des chercheurs sur les différentes thématiques. Et du coup, on a proposé donc une méthodologie d'indicateurs qui intégrait donc à la fois la qualité des eaux de surface, la qualité des eaux de consommation, la qualité des sols, la pollution de l'air. Et puis, pour faire des indicateurs d'exposition, du coup, en partant de données, alors d'émissions de pollution, cette pollution étant transférée dans les milieux environnementaux et puis transférée par inhalation, ingestion, essayer d'avoir une espèce de vision agrégée de l'imprégnation environnementale au niveau de la France entière et sur des résolutions géographiques fines. Donc il y avait par exemple des indicateurs d'épandage de pesticides, des expositions au bruit, des productions de déchets. Du coup, tout ça permet de intégrer l'ensemble des bases de données environnementales pour essayer d'approcher du coup des valeurs d'indices de santé environnement. Et du coup, ce qui était voulu, donc, c'était d'essayer de décliner ces indicateurs alors, au niveau des communes, du coup, sur un maillage fin, de manière à permettre, du coup, quand on commence à faire des statistiques spatiales, utiliser la géographie, après, on peut rattacher tout un tas de données, dont des données socio-économiques et des données de santé. Et du coup, de pouvoir analyser notamment les inégalités environnementales et leur articulation avec les inégalités socio-économiques et les inégalités de santé. Du coup, alors là, ils sont en cours de production, mais du coup, on va pouvoir y avoir accès d'ici un ou deux ans. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, ce qu'il faut réfléchir, c'est ces inégalités environnementales, comment elles s'articulent avec les inégalités socio-économiques, ce dont tu as parlé déjà un petit peu jeudi. Du coup, voilà, donc on a des indicateurs en santé et environnement alors, qui ne sont pas là pour orienter les politiques conjoncturelles, mais qui sont au moins là pour orienter des plans. Du coup, c'est également des propositions d'indicateurs alternatifs qui pourraient être utilisés. Et une autre illustration du fardeau environnemental dont on a parlé, c'est le livre de Shana Swan, qu'André Sicola la connaît, qui du coup est une experte du lien entre perturbateurs endocriniens et maladies de la reproduction, et qui du coup a sorti un livre l'année dernière qui s'appelle Countdown, qui veut dire compte à rebours, et dans lequel elle décline en gros principalement sa méta-analyse de 2017, qui analyse toutes les données de qualité de sperme dans les pays occidentaux, et qui a permis de montrer qu'en 40 ans, la qualité du sperme avait diminué de 50%, et qu'en extrapolant ces résultats, l'homme occidental ne serait plus fertile en 2045. Donc, en suspectant largement les facteurs environnementaux, et plus spécifiquement les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est un indicateur de soutenabilité également du système économique. Si dans 20, 30, 40 ans, on n'est plus capable de se reproduire naturellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, après, il y a la PMA. la PMA, ça implique des coûts sur les systèmes de santé et du coup, du fardeau des maladies chroniques qui va impacter tous les systèmes de protection sociale derrière. Ça veut dire que on a des coûts externes qui ne sont pas pris dans la loi du marché et que nos institutions doivent prendre en compte pour les retranscrire, les mesurer. Du coup, parler du rapport de l'UNICEF, mais il y a deux semaines, un article du Lancet qui remettait à jour les données de Global Burden of Disease et qui montrait que...
Le poids des maladies, c'est ça.
Oui, les maladies chroniques, et qui montrait que, 9 millions de morts prématurées étaient liées donc à l'environnement, sachant qu'il y a à peu près 50 à 60 millions de morts par an dans le monde entier, ça commence à faire beaucoup c'était la question de tout à l'heure, elles étaient en augmentation et du coup le chiffre c'était 66% en 20 ans. Alors c'est dans le monde, hein. Du coup en France c'est sûrement pas la même chose, mais voilà, on a des augmentations au niveau international et comme je dis l'a rappelé, un lien très fort entre inégalités socio-économiques et ces expositions et ces morts.
D'accord. Vous aviez d'autres choses, peut-être parce que je voulais intervenir, je crois, je vous ai dû prendre le micro et compléter peut-être votre propos de tout à l'heure, puis je vous repasse. On prendra bientôt aussi vos questions, si vous en avez, vous pouvez commencer à les préparer dans 5 minutes, merci.
J'entendais que bientôt, les humains ne pourraient plus faire d'enfants, mais ceci dit, ce qui est inquiétant aussi, c'est que les jeunes générations ont peur de faire des enfants, et un certain nombre, notamment dans les pays où on a pu mener des enquêtes, expliquent qu'ils pensent renoncer à faire des enfants à l'âge adulte pour différentes raisons, mais notamment liées à l'éco-anxiété. Donc, c'est pas forcément tellement plus rassurant, mais ça converge, en tout cas. Je pense que quand même nos propos sont assez complémentaires, mais vont dans le même sens. Il y a bien un enjeu quand même de volonté politique. Et ce que je constate, c'est qu'il y a un enjeu de volonté politique, mais il y a aussi une vraie question de prise en compte du moyen terme. Ou peut-être, alors le long terme, j'ose à peine prononcer l'expression, mais le moyen terme, parce que finalement, tout à l'heure, on se demandait pourquoi ces préoccupations pour la santé, pour les liens sociaux, ne débouchent pas sur des choix politiques, notamment au moment des élections, qui seraient cohérents avec ces questions-là. Mais en fait, si on regarde bien aujourd'hui, c'est les questions de pouvoir d'achat, les questions de climat, mais voilà, de façon assez large. Et c'est vrai que tout ce qui implique des changements un peu plus longs, des politiques publiques qui ne vont payer que dans quelques temps, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une difficulté à les mettre en place. Et moi, je le vois notamment sur l'ensemble des questions qui concernent l'enfance. Un enfant, c'est un investissement, en fait, aussi. Et si on n'y croit plus ou si on n'est pas capable de voir à plus de 30 jours, ce qu'avait constaté François Bayrou en arrivant au commissariat au plan, il avait constaté que dans les ministères, on ne pensait pas au-delà de 30 jours. Ça veut dire que certains pensent en dessous de 30 jours. Ça pose une vraie question. C'est qu'en fait, on est tout le temps dans l'urgence et on ne regarde pas aussi ce qui se profile à l'horizon, ou alors on ne sait pas comment le regarder.
C'est une question de priorité économique, comme on l'a dans le sous-titre.
Mais je pense vraiment d'état d'esprit aussi, de capacité presque à un certain stade.
Oui, mais c'est pour ça, d'ailleurs, je pense, quand on parle de maladies chroniques, évidemment, le plus grand nombre touche les populations les plus âgées. Et donc, il faut regarder effectivement ce qui se passe dans les générations les plus jeunes, et parce que c'est là aussi on pourra avoir des résultats le plus rapidement possible. Alors, vous avez évoqué l'asthme. Je vous donne une grande étude suédoise. Il y en a d'autres, mais celle-là, vraiment, 2014. On a suivi 3200 enfants pendant 10 ans. Et le résultat, si vous avez un sol en PVC dans la chambre des parents, pas dans la chambre des enfants, dans la chambre des parents, le taux d'asthme est multiplié par 2. Alors, c'est une bonne nouvelle. vous enlevez le sol en PVC, votre enfant sera deux fois moins de risque d'être asthmatique. Donc, très très bonne nouvelle. Pourquoi ? Si un sol en PVC, contrairement à ce que son nom indique, c'est du PVC bien sûr, mais c'est 20 à 40% de phtalate. Et pas n'importe quel phtalate, c'est principalement le DEHP, aujourd'hui classé substance extrêmement préoccupante. Et comment ça fonctionne ? C'est un mélange. Quand vous marchez sur un sol en PVC, vous avez l'impression que c'est du solide. Oui, c'est souple quand même. Hein. C'est souple. Hein. Sinon, Et pourquoi c'est souple ? Parce qu'on met des phtalates. On classe, ce sont des plastifiants. Le problème, c'est que quand vous avez une élévation de température dans la... Donc le phtalate, qui est un composé organique semi-volatile, il va se volatiliser, comme son nom l'indique. Puis après, il va se déposer sous forme de poussière. Il va contaminer toutes les pièces de l'appartement. Et alors, dans la chambre des parents, on passe beaucoup de temps, finalement, hein, dans la chambre des parents. Donc, il y avait une contamination pendant la grossesse, puis une contamination de l'enfant. Alors, on a les données à la fois sur l'asthme qui est lié au sol en PVC, puis après, on a des données aussi sur l'enfant. L'autodasme est lié aussi à la contamination, à sa contamination lui-même, après. Donc, on a voilà, une façon... l'asthme, c'est un enfant sur 10, actuellement. Un enfant sur 10. Et donc, on peut, assez rapidement... Donc, faire la démonstration, effectivement, qu'en éliminant des causes identifiées, comme les sols en PVC, on va faire diminuer le taux d'asthme. Mais même, ça va encore plus vite. Les troubles du langage. Les troubles du langage, ça se mesure à l'âge de 2 ans. Vous avez, là aussi, c'est la même équipe suédoise, d'ailleurs, qui a travaillé sur le sujet, qui met en évidence un lien deux fois plus élevé, un trouble deux fois plus élevé, en fonction de la contamination maternelle de troubles du langage chez l'enfant. Ouais. Donc, vous diminuez cette contamination par les phtalates, vous avez des gains de santé. Alors, il y a 8 maladies infantiles identifiées, mais il y en a encore d'autres. On a une discussion encore sur l'autisme, on peut rajouter l'autisme. Et récemment, il y a 3 mois maintenant, publication danoise qui met en évidence un lien entre l'exposition aux phtalates via des médicaments, parce qu'on met des médicaments dans les phtalates. Et vous savez pourquoi on met des phtalates dans les médicaments ? Vous avez remarqué les gélules. Une gélule sympathique. Hein. On dit que c'est une gélule, donc c'est végétal. Hein. C'est la cellulose. Ah oui, mais pour que ça marche, il faut effectivement un plastifiant. Et on a mis du DEP, qui est un phtalate. Et là, les Danois, qui ont des systèmes de collecte d'informations remarquables, nous disent, on a regardé, 6 mois de traitement chez l'enfant, ça se traduit, 3 ans après, âge médian, par 2 fois plus de lymphome et 3 fois plus d'ostéosarcome. Donc on a effectivement, on peut toujours dire qu'il y a d'autres causes. Ça, c'est clair, on n'a jamais une certitude absolue. Mais enfin, on se dit, si on élimine ces phtalates qui sont dans les médicaments, on peut les remplacer d'ailleurs, hein, on va avoir diminué le risque de cancer de l'enfant. Puis on va diminuer toutes les autres maladies infantiles. Donc vous voyez, une politique de santé environnementale, mais on va en discuter quand on va discuter de la prochaine stratégie nationale perturbateur endocrinien. Hein. Il faut effectivement obtenir qu'on rentre effectivement avec un objectif quantifié de diminution de la contamination, bien sûr, mais aussi des maladies infantiles. Les troubles du langage à l'âge de 2 ans. Alors, l'environnement social dans cette affaire, chez les populations les plus favorisées, le trouble du langage, 3%. Chez les moins favorisés, les plus défavorisés, plus exactement, 24%. Un enfant sur 4. Vous voyez la perte de chance que ça représente. Donc la santé environnementale, ce n'est pas simplement du long terme, c'est du très court terme.
Et ça, pour le coup, on commence à estimer les coûts économiques de ces maladies, du coup. En 2015, Léo Trassandé a réuni une quinzaine d'experts internationaux en pointe sur la question et épluche toutes les bibliographies en toxicologie, en épidémiologie relatifs aux perturbateurs endocriniens et commence à prioriser des couples de polluants et de pathologies pour estimer des fractions attribuables à partir du coup des risques relatifs estimés dans les études épidémiologiques. Et du coup, André, vous présentez des incidences, mais il faut réussir à savoir quelle est la part environnementale ou quelle est la part des perturbateurs endocriniens. Et en structurant l'ensemble des informations qu'on peut trouver dans la recherche en épidémio et en toxicologie, du coup, on peut réussir du coup, à estimer la part attribuable des maladies liées à ces expositions, à condition qu'on ait les études de biosurveillance pour le faire. Et du coup, cette étude, enfin, ce gros programme avait permis de commencer à regarder alors, les problèmes sur les maladies reproductives chez l'homme, chez la femme, les maladies métaboliques, les accidents cardiovasculaires, et avait pu estimer alors le coût d'une maladie. Et du coup, au niveau de l'Europe, on arrivait donc à une somme de 150 milliards d'euros par an. Ce qui correspond à un peu plus du 1% du PIB de l'Europe, sans les cancers hormonodépendants qui sont quand même assez élevés. Donc voilà, rien que les PE et quelques PE, parce que c'est le sommet de l'iceberg, quoi. On arrive déjà à 1% du PIB de l'Europe. Alors du coup, voilà, c'est des choses qu'on essaye de refaire au niveau national. Et du coup, on a besoin de tout un ensemble de données. Alors les données de biosurveillance, les données d'incidence qu'a Santé publique France.
Dans tout ce que vous avez présenté, tous les trois, je trouve qu'il y a on peut relativiser la part de la responsabilité individuelle, parce qu'on revoit beaucoup aux gens le fait qu'ils mangent mal, éventuellement ils bougent pas assez, etc. Mais on voit bien qu'il y a des facteurs environnementaux qui se conjuguent, quel que soit d'ailleurs l'endroit où on habite, et qui dépassent complètement et qui sont de la responsabilité collective, me semble-t-il.
Oui et non, c'est-à-dire que la responsabilité individuelle, ça se construit aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'accès à l'information. La compréhension. Là, en tant que réseau environnement santé, on a lancé depuis 4 ans une campagne ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Donc il y a 5 points, en fait, c'est très simple. Et un Français sur deux, aujourd'hui, est dans une collectivité locale qui a signé la charte. Alors ils s'engagent, après on leur dit, mais c'est une démarche. Et notamment, il y a une démarche d'information et de sensibilisation de la population. Et actuellement, on fait des campagnes en équipant les volontaires de bracelets en silicone. Vous voyez, les bracelets en silicone que les ados aiment bien, le silicone capte bien un certain nombre de perturbateurs endocriniens comme les phtalates. Les gens sont très surpris après de voir qu'ils sont contaminés par les phtalates. Et ça, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les disparités entre personnes. Et donc, les phtalates, on les élimine tous les jours. Donc, on devrait être à zéro. En fait, on est à 100%. Et donc, voilà. La sensibilisation, ça permet... Après, quand on dit aux gens, mais d'où ça vient ? C'est le plastique. Donc ne mettez pas au micro-ondes des récipients en plastique. Bon, c'est simple, ça. Les cosmétiques. Bah, prenez la cosmétique bio, elle s'engage à être sans phtalate. Donc les parfums, parce que dans les parfums, on va trouver du DEP, le fameux DEP qu'on retrouve dans les médicaments. Voilà. Donc vous voyez, il y a une action au niveau régalien, mais il y a une action au niveau individuel. Les gens sont aussi... Et quand on vous explique que... parce qu'il faut quand même expliquer... Vous prenez un shampoing qui n'est pas en bio, vous allez contaminer, vous allez impacter la santé de votre arrière-petit-fils. C'est quand même un peu difficile à comprendre. Hein. Il faut expliquer ça. Mais les gens comprennent très bien. Et une fois qu'ils ont compris ça, il faut faire les deux. À la fois, la prise de conscience passe à ce niveau-là.
Ouais, on va prendre les questions ensuite, mais je vous laisse ajouter quelque chose.
Effectivement, dans le PNSE 4, il y avait une volonté aussi de fournir des outils aux individus pour s'approprier un peu sa propre santé, avec des Nutri-Score, des Toxi-Score, pour que l'individu devienne acteur. Et du coup, c'était Éloi Laurent qui parlait de la sobriété. Ne pas consommer, c'est un droit de vote. Et si le marché n'a plus d'acheteurs, finalement, ils reprennent leur camelote et elle n'est plus diffusée. Effectivement, la réglementation a plein de trous et laisse passer beaucoup de substances toxiques dangereuses encore aujourd'hui. Mais l'individu a encore un rôle important là-dessus.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Oui, madame. Il y a un micro. Bonjour.
Ah, comme ça ? Voilà, oui, ça y est. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de vos interventions très intéressantes. Je reste très ouverte à tout ce que vous avez dit sur le plan 4 de 2019. J'aimerais avoir quelques informations, si vous en avez, des études sur les causes de pollution de l'air. Moi, j'ai une représentation par rapport à tout ce qui est poussière en béton liée aux chantiers publics. Au tabac et aux voitures. Alors, est-ce que vous avez des informations plus précises pour valider ou pas ce stéréotype que j'ai dans la tête ? par rapport à la pollution de l'air. C'est là que j'ai envie de mettre le curseur principal, mais il y a évidemment, bien sûr, mais en tant que mégapole, on est dans une métropole-mégapole, voilà, 10 millions de personnes, bientôt 10 milliards sur la planète aussi. Donc effectivement, c'est pas étonnant que certains jeunes n'aient plus envie d'avoir d'enfants, il y a aussi cette pression démographique. La deuxième question, elle porte sur la représentation qu'on a sur faire des gens des bons consommateurs. Je crois que beaucoup de gens sont passés à autre chose et attendent des mesures par rapport aux productions de l'industrie et qu'il y ait des stops, des alertes de stop, comme il y a eu sur les pesticides, sur les perturbateurs endocriniens, quand même des petites mesures que l'État a pu prendre. Mais voilà, nous, on attend maintenant que ce soit effectivement la COP21. Enfin, moi, je parle avec Alternativa et d'autres appartenances. Mais voilà, on attend aussi qu'il y ait des stops de surproduction et de production. Donc, des vraies questions économiques de remise en question en lien avec les extinctions, par exemple. Après, j'ai une autre question. Je suis très intéressée par votre bracelet silicone. Là, j'aimerais bien me le procurer. Ça suffit peut-être pour l'instant, mais voilà.
Déjà, vous laissez répondre, puis on verra si on a le temps ensuite.
Merci beaucoup.
Alors, dans quel ordre vous voulez?
Oui, je rebondis tout de suite là, sur votre dernière
le bracelet,
remarque.
Oui.
On a le 25 avril, ça vous a peut-être échappé parce que les médias en ont peu parlé. La Commission européenne a présenté sa feuille de route sur les produits chimiques. C'est un tournant historique. Un tournant historique dans la mesure... Alors c'est dans le cadre du Green Deal, du Pacte vert, une stratégie de lutte contre les polluants chimiques. Et là, on nous dit d'ici 2030, on élimine 2000 substances chimiques. Alors ça peut sembler peu parce qu'il y en a 150 000 répertoriés mis sur le marché, mais c'est quand même les gros. Hein. Les grands perturbateurs endocriniens, les bisphénols, les phtalates notamment, et le PVC. Voilà, enfin le PVC, on va éliminer le PVC d'ici 2030. Alors, vous savez, quand on commence à voir effectivement l'impact, on se dit, ah, c'est une bonne nouvelle. Et on ne va pas attendre 2030. Hein, voilà. Donc, c'est là où il faut conjuguer l'action régalienne et l'action citoyenne. Allez voir vos maires, voilà, parce que la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens, eh bien, il faut la faire signer dans toutes les villes, toutes les régions, tous les départements. Voilà. Dire, voilà. Et ça va amplifier d'ailleurs le phénomène d'action pour justement... Maintenant, les choses sont claires. Il faut y aller. Sauf qu'un sol en PVC, ben ça, les bailleurs sociaux nous disent que ça dure 40 ans. Donc si on laisse le temps faire et on attend 40 ans, non, on ne peut pas attendre 40 ans quand on sait tout ce qu'on sait.
Et peut-être pour vous répondre sur la pollution de l'air. Alors, on parlait tout à l'heure de pollution de l'air intérieur, pollution de l'air extérieur, mais si on parle de pollution de l'air extérieur dans les villes, alors les transports arrivent quand même bien en première place en fonction des villes, mais globalement, généralement, ils arrivent en tête du classement, notamment pour tout ce qui concerne les émissions de dioxyde d'azote et de particules fines. Après, c'est pas la seule chose non plus. On sait qu'il y a aussi le secteur résidentiel, l'industrie. Il peut y avoir aussi l'agriculture, mais ça, c'est un peu plus présent dans les campagnes. En fait, les sources de pollution vont varier en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans les villes, la question du transport est assez importante. Et puis, c'est aussi... nous, on a aussi voulu se concentrer sur cette question parce que il y a un vrai travail à faire. Aujourd'hui, les villes, elles sont beaucoup pensées pour la voiture. C'est impressionnant la place que prend la voiture, même par rapport aux cyclistes ou aux piétons, même purement en termes de mètres carrés. Hein. Et puis surtout, c'est des choses sur lesquelles on peut agir à l'échelle individuelle. On sait qu'il y a énormément de déplacements entre 1 et 3 km qui se font en voiture. C'est impressionnant. En fait, c'est aussi un moment où on peut décider de faire différemment. C'est aussi là-dessus que peuvent intervenir les pouvoirs publics. Donc c'est aussi pour ça que nous, on a décidé de mettre l'accent sur cette question-là. Et puis les autres secteurs avaient aussi été finalement pas mal régulés aussi dans les années précédentes. Voilà, pour vous dire un petit peu là-dessus. Et puis l'air intérieur, je suis pas sûre que c'est moi qui y répondrai le mieux, mais c'est sûr qu'en tout cas, quand il y a du tabagisme, et c'est aussi pas mal le cas dans des familles plutôt défavorisées, dans des familles plutôt pauvres, c'est vrai que ça va avoir tendance à, là aussi, s'ajouter dans l'exposome de l'enfant dont je parlais tout à l'heure, donc finalement le rendre plus vulnérable lorsqu'il se retrouve face à d'autres agressions, si je puis dire. Oui, les poussières de béton, c'est une réalité aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de travaux, je pense récemment, et une étude que j'ai vue pour une école qui était juste à côté d'un chantier. C'était assez impressionnant aussi. Donc c'est une réalité aussi, mais sauf que quand on arrête le chantier, normalement, ça limite un peu. En tout cas pour celles qui viennent de chantier. C'est vrai que le transport, c'est quand même plus difficile parce qu'aujourd'hui, ça conditionne beaucoup les villes, et notamment les villes moyennes. C'est pour ça qu'on regarde beaucoup les grandes villes, mais les villes moyennes, il y a un vrai enjeu aussi.
Merci.
Sur les particules, il y a aussi une grosse thématique, c'est les transports à longue distance, quoi. Finalement, c'est les pays de l'Est avec des politiques énergétiques, avec des centrales à charbon qui nous envoient leurs particules, et là-dessus, la France a du mal à pouvoir avoir des leviers d'action.
D'autant que peut-être juste un mot, mais c'est vrai que c'est assez complexe la question de la pollution de l'air, parce que ça va aussi dépendre d'autres choses, de la météo. Parfois, dans une rue qu'on peut croire très polluée, ben en fait, elle va être bien balayée par l'air. Donc, en fait, c'est quand même pas toujours évident de savoir si un endroit est très pollué ou pas. C'est sûr que si vous êtes en Bretagne, sur une plage battue par les vents, il y a des chances que vous soyez moins exposé au dioxyde d'azote que si vous êtes en plein Paris dans une rue très étroite. Mais ça, c'est vrai qu'après, c'est des choses qu'il faut regarder de près aussi.
Avec l'impact de la crise climatique, on n'a pas eu le temps beaucoup d'en parler, mais dans la mesure où ça peut rajouter aussi un certain nombre de facteurs que vous avez évoqués tout à l'heure. Mais vous aviez encore une question, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il y a monsieur aussi devant. Voilà, laissez une chance à tout le monde. Peut-être reviendra si on a le temps vers vous, madame. Oui, tout devant, oui. Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, je vous remercie pour ce débat intéressant. Surtout, je suis content de voir André parce que nous avons été collègues il y a 20 ans à l'INERIS. Donc, en fait, dans le débat, je pense qu'il y a un acteur qui n'est pas très évoqué, c'est des professionnels de santé. Je vous donne un cas très précis. En fait, donc, je conseille la Commission européenne sur les questions de santé et environnement. Déjà en 2010, l'Europe il voulait interdire l'usage de mercure dans les amalgames dentaires. Donc les deux pays qui sont fortement opposés, c'était France et Allemagne, pour le purement raison économique en fait, parce que ça pèse sur le système de santé, sécurité sociale, etc. Mais la chose qui était plus étonnante, c'est les dentistes qui opposaient également. Et là, on est en 2022 et la Commission européenne repose la même question, quand on peut interdire le mercure dans nos dents, parce que c'est pas que dans les dents, après dans les crématoria, il y a les impacts sur l'environnement sont beaucoup plus larges. Donc je pense que c'est en termes de priorité économique, on voit qu'avec une pandémie, l'État, ils ont débloqué les fonds énormes, mais quand on parle des enjeux liés avec la pollution qui est chronique, la volonté publique n'est pas là et c'est non plus une priorité économique. Mais surtout les professionnels de santé non plus, ils ne sont pas engagés cette question-là, donc on ne peut pas tout reposer sur les consommateurs et sur les pouvoirs publics. Je pense que les professionnels de santé, ils ont un rôle important à jouer. Et puis, juste une petite clarification, je voudrais sur les questions sur des chiffres de diabète, parce qu'on voit que depuis des années, le taux de glycémie, à niveau où on déclare un sujet qui est diabétique, ça baisse régulièrement. Donc, est-ce qu'il y a un impact sur des chiffres que vous avez présentés ou c'est négligeable? Merci.
Il y a eu effectivement une petite augmentation, mais la tendance ne change pas. Mais vous avez raison de faire le lien avec les professionnels de santé qui sont des professionnels du soin, en fait. Et la crise de l'hôpital actuellement, alors les professionnels du soin ne le posent pas actuellement très clairement parce qu'ils n'ont pas la formation aussi pour repérer. Mais l'enjeu de la santé environnementale, c'est très simple. Hein. On a un système de soins, donc les soignants soignent les gens malades. Voilà. Ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe avant, c'est normal. Mais ce qui se passe avant, c'est le flux. Ils vont gérer de plus en plus de malades. Et donc, en plus, ça se croise avec les politiques économiques de restriction des moyens, notamment de l'hôpital. Mais regardez, la notion de désert médical, c'est quand même invraisemblable. Mais ça, c'est une politique qui a démarré il y a 40 ans. On trouvait qu'il y avait trop de médecins. Voilà. Donc, numerus clausus, etc. Sauf que ça a changé aussi l'exercice. Les médecins qui font 80 heures par semaine, ça n'existe plus. Ils ont raison, d'ailleurs. Ils ont raison. Donc, on voit effectivement que l'enjeu, parce que ce système de santé est plus largement notre système de protection sociale. C'est la colonne vertébrale de notre société. Si on n'a pas ça, on n'a qu'à aller voir dans les pays du tiers-monde comment ça se passe. hein, c'est l'explosion. Et donc il faut effectivement, pour sauvegarder ce système, qui est la grande avancée de 1945, hein, il faut agir. C'est pour ça que la santé environnementale, ce n'est pas une politique sympathique, mais un peu à la marge. C'est une politique centrale. Et ça conditionne effectivement l'avenir de notre système de soins.
Oui, peut-être pour ajouter un point là-dessus, c'est vrai que la mobilisation des professionnels de santé est importante, leur formation aussi, parce que je pense qu'ils n'ont pas toujours la formation aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, c'est une vraie question. Nous, on l'avait notamment proposé dans le rapport qu'on a sorti justement sur les inégalités sociales face à la pollution de l'air, et on proposait notamment de réinvestir un peu la protection maternelle et infantile, justement pour pouvoir porter ces messages-là auprès des populations les plus défavorisées, parce que vous voyez finalement ce dont on parle sur le sol que vous choisissez dans votre chambre à coucher quand vous êtes parent. Peut-être que les plus favorisés y auront accès d'une manière ou d'une autre, mais si en fait ces conseils-là ne peuvent pas être donnés aussi à des familles qui sont plus en difficulté, en fait on continue à creuser ces inégalités-là. Donc il y a un vrai enjeu à trouver un moyen, c'est toute la logique de l'aller vers en fait, et il faut aussi pouvoir l'appliquer dans ce cas-là. Et c'est vrai que typiquement, si l'asthme est pris en charge, est diagnostiqué et pris en charge assez tôt, ça fait quand même moins souffrir l'enfant que si la pathologie n'est pas détectée, tout simplement parce que les parents, ne sachant pas, ils ont simplement pensé que l'enfant toussait, puis ils ne l'ont pas forcément emmené chez le médecin. Donc il y a un vrai enjeu à penser véritablement des politiques publiques autour de l'enfant, y compris autour des enfants en situation de pauvreté.
Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Oui, monsieur.
Oui, je voudrais que vous confirmiez la remarque que je fais, savoir sur l'espérance de vie. Moi, je pensais que justement, on a augmenté l'espérance de vie, c'était beaucoup lié à la baisse de la mortalité infantile. Je ne sais pas si c'est vrai, je voulais confirmer. Ensuite, je voudrais savoir le lien que vous faites entre la santé et la baisse de la biodiversité. Quel lien de la baisse de la biodiversité et aussi le lien aussi qu'il y a entre la santé et le réchauffement climatique. Est-ce qu'on a des simulations, des choses comme ça ?
C'est vrai qu'on n'a pas pu tout aborder. Merci. Parce que le thème est très vaste. Merci pour la question.
Si on peut, ça donne la vision One Health, effectivement, globale. Alors, mais quand les gens qui parlent de One Health, enfin, j'ai participé à une réunion il y a au début du mois, spontanément, les gens parlent One Health en termes de zoonose. Vous voyez, la notion de syndémie, ils ne l'ont pas intégrée, généralement. Hein. Mais le lien avec la biodiversité se fait là. On voit bien. Là, c'est la principale. On a une croissance régulière des zoonoses depuis l'après-guerre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en a pris conscience avec le Covid. Mais c'est depuis les années 50 que ça progresse. Et là, voilà. On ne sait pas. Donc, réparer effectivement la biodiversité, c'est une façon aussi de se préparer à faire face à toutes ces crises, effectivement.
Peut-être juste expliquer ce qu'est la zoonose.
Oui, je crois que vous l'aviez expliqué, la zoonose, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais peut-être repréciser ce que c'est qu'une zoonose.
Ah, pardon, excusez-moi. Oui. Ouais. La zoonose, effectivement, c'est des maladies qui touchent les animaux et qui sont transmises à l'homme. Alors, pendant longtemps, on parlait de la barrière des espèces. Oui. La barrière des espèces, c'est un fantasme, en fait. Hein, non, on fait partie, en fait. C'était cette idée que l'espèce humaine, elle était hors norme, elle était hors sol, quoi. Hein. Ben non. Vous voyez, on parle de la variole du singe ces temps-ci. Voilà. Ben oui, ça passe. Et puis ça mute, en fait. Et parfois, les mutations viennent du fait que c'est la proximité, effectivement, de l'homme et des espèces animales, et notamment dans les élevages industriels. Le rôle de ces élevages industriels est extrêmement important. Le H1N1, alors au départ, ça a été masqué. Non, pas du tout, c'est impossible. Il semble bien que c'était effectivement les grands élevages industriels à la frontière mexicaine qui sont à la cause de ces zoonoses. Donc, cette vision-là, en fait, cette notion-là est extrêmement importante. En plus, il y a la diminution, notamment par rapport aux pathologies infectieuses. La contamination chimique diminue l'efficacité du système immunitaire. Vous voyez, les choses sont très liées. C'est pour ça qu'il y aura cette vision vraiment globale de la crise sanitaire et de la faire monter au niveau de la crise. C'est la crise écologique, en fait. Or, actuellement, c'est traité comme un problème un peu secondaire, même totalement secondaire. Vous voyez, moi, je représente une association de santé, qui lutte sur la santé environnementale. On n'est toujours pas invité au Comité national de la transition écologique, comme si la santé, c'était en dehors. Oui.
Merci. Ouais, ils vont le faire bientôt. Ils vont le faire bientôt.
Il est plus de 20h30. Est-ce qu'on a encore
sûr? Il y avait quand même la question du monsieur sur les prévisions du réchauffement climatique.
Si on a juste une seconde, je voulais dire aussi un mot parce qu'on parle d'espérance de vie. En effet, sur le fait que la mortalité infantile peut faire baisser les calculs de l'espérance de vie, c'est vrai, ça ne va pas forcément aller dans le bon sens parce qu'on sait qu'avec ce bouleversement climatique, tout va avoir... toutes les dimensions de l'enfant vont être affectées, l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau. Il faut bien voir que les maladies liées à l'eau tuent énormément d'enfants de moins de 5 ans. Et on sait très bien que ce qui a démarré, c'est une course contre la montre, en fait, parce que considérant que l'environnement va globalement se détériorer, on sait qu'il y a un certain nombre d'enfants qu'on ne pourra pas nourrir, des enfants qui seront empoisonnés par l'eau qu'ils boivent ou alors n'auront pas accès à l'eau, sans parler même des conflits qui sont liés à l'accès aux ressources. Enfin, vous voyez, finalement, c'est vraiment l'ensemble des conditions de vie et donc la mortalité infantile qui va augmenter. Alors, on essaie de lutter tous les jours dans tous les pays contre ça, mais c'est compliqué. Et aussi... Pardon, allez, je vous en prie.
Je rebondis sur mortalité infantile, justement. Il y a quelques semaines, une publication de l'INSERM montre que la mortalité infantile en France...
Oui.
En France, augmente depuis 10 ans. Et la conclusion est très nette. C'est un phénomène lourd. Donc il faut l'analyser, le comprendre, parce que c'est un paquebot, hein, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et on en a un peu parlé dans les médias, mais après ça disparaît. Alors que ça devrait être au cœur du débat politique aujourd'hui.
Surtout qu'on a du mal à en identifier précisément les causes. On tâtonne un petit peu, mais... Oui, c'est un sujet qui est important, mais en tout cas, dans le reste du monde, et notamment dans les pays les plus pauvres, qui seront les plus exposés, qui vivront le plus durement le réchauffement climatique, on sait que de nombreux enfants qu'on aurait pu sauver il y a quelques années ne seront pas sauvés. Donc c'est aussi assez dramatique, mais il faut bien se le dire, ce seront les plus fragiles qui... Enfin, en tout cas, les enfants sont généralement cumulent des facteurs de vulnérabilité. Voilà, donc c'est une préoccupation qui est très forte.
C'est une question.
Oui,
allez-y.
Une question. Du coup, moi, j'aimerais vous interpeller surtout sur l'information et la communication, vu que je suis étudiante en information communication. Par rapport à vos échanges qui sont très intéressants, j'ai quasi tout noté, repris tous les chiffres que vous avez mentionnés. Mais justement, je me pose une question justement sur le fait de travailler beaucoup plus main dans la main, justement avec les communicants qui peuvent mettre en avant tous ces chiffres qui sont d'utilité publique. Aujourd'hui, en France, il n'y a qu'un seul master en information communication qui traite des enjeux de santé environnement qui est à la Sorbonne. Un seul master, du coup, qui forme qu'une vingtaine d'étudiants sur des enjeux qui sont colossaux et où on a besoin, justement, de former des personnes qui peuvent, justement, communiquer sur des enjeux, comme j'ai dit, colossaux. Donc, est-ce que vous pensez, justement, qu'il y a un manque d'informations? Parce que vous parliez tout à l'heure qu'il y avait quand même de l'information, mais moi, en tant qu'étudiante en communication, on nous apprend aussi qu'on grouille justement sur l'information, et pour que le citoyen puisse faire le tri, il faut qu'il y ait des personnes justement qui mettent l'information au service des citoyens. J'espère que j'ai été claire. Désolée.
Merci.
Alors, à Santé publique France, il y a beaucoup d'initiatives pour communiquer des actions de prévention. Et du coup, alors, je ne sais pas si vous écoutez la radio, mais souvent, j'entends Santé publique France donner des recommandations pour ne pas boire, ne pas fumer, manger sainement. Et du coup, alors, ils ont sorti un site qui s'appelle « Les 1000 premiers jours » qui donne des recommandations sur aux parents comment agir pour éviter... d'exposer leurs enfants aux perturbateurs endocriniens, mais dans tout un tas de thématiques différentes. À Santé publique France, ça communique beaucoup. Alors, peut-être moins sur les questions environnementales, même si tous nos rapports sont mis à disposition, mais c'est vrai qu'il y a moins d'efforts de les traduire directement en recommandations, à part par le biais des 1000 premiers jours ou autres initiatives. C'est aussi, j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup d'informations et que le citoyen a du mal à faire le tri. Il y a beaucoup d'associations qui font vraiment du bon boulot, mais du coup, séparer le bon grain de livret, c'est toujours un petit peu difficile.
Julie Sauré.
Oui, j'ai le sentiment qu'on essaye aussi de communiquer, de sensibiliser aussi sur ces questions-là. Après, en effet, il y a beaucoup d'informations. Celles-ci ne sont pas non plus toujours... elles attirent l'attention, mais on rentre peu dans le détail dedans. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter. En tout, on a fait 4 rapports sur la pollution de l'air. C'est vrai que quand je me rends dans des médias, je m'aperçois que c'est toujours très superficiel. Donc finalement, on s'arrête au message un peu choc. 3 enfants sur 4 respirent un air pollué. Et puis, on n'arrive pas forcément à aller plus loin, ni toujours à avoir le temps de parler concrètement des recommandations. Qu'on fait aussi parce qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Et c'est vrai que je pense que c'est un constat sur un certain nombre de problèmes. Je pense que c'est pas spécifique à la santé environnementale, mais peut-être.
Mais c'est effectivement très important. Je rebondis sur le type de communication. Il faut éviter le discours anxiogène.
Ouais, c'est ça.
Moi, quand je commence une conférence, je dis je vais vous faire une conférence optimiste. Les gens se disent, ça les fait rire déjà. Et donc, parce qu'effectivement, ils savent que j'ai parlé perturbateur endocrinien, j'ai parlé santé, mort, maladie, donc on se dit, c'est pas très. Mais fondamentalement, c'est vrai. Quand j'évoque les sols en PVC, évidemment, on peut considérer que c'était une belle connerie de mettre des sols en PVC il y a 40 ans. Ça, on est d'accord. Sauf que ça a été posé, maintenant, on va pas revenir en arrière. Mais les enlever, excellente nouvelle! On va diminuer le taux d'asthme à un facteur 2 à peu près, quoi, chez les populations les plus exposées. Voilà, c'est une bonne nouvelle. J'évoque les médicaments avec des phtalates. Vous croyez que c'est vraiment utile de mettre des phtalates dans les médicaments? Quand on a une donnée comme celle qui sort là, on va enlever ça. Et les 2000 substances qui vont être évacuées, signal donné par la Commission européenne, on y verra plus clair, hein, et on va avoir des impacts sanitaires qui sont nettement qui vont diminuer. Donc, oui, donc on peut et on doit communiquer de façon positive. On ne construit pas sur la peur, ça c'est clair.
À la fin du premier rapport qu'on avait publié, celui-ci, on montrait bien... le rapport est quand même dresse un constat assez clair. Hein, on sait que les enfants sont plus vulnérables, qu'il faut agir. Mais surtout, ce qu'on montrait aussi à la fin, c'est que si on agit, ça peut avoir un impact, y compris à l'échelle d'un enfant, à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que sa santé peut s'améliorer si son environnement s'améliore. Donc c'est aussi, et c'est particulier, c'est aussi très particulier aux enfants, c'est qu'ils peuvent se remettre assez vite, mais il faut les tirer d'un environnement qui les rend, ou alors dissiper ce qui les rend malades dans cet environnement-là. Mais pour ça, on en revient à une nécessité d'action et de prise de conscience et d'action politique forte. En effet, il y a des enjeux de priorité.
Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Sinon, je...
Vous Madame aviez, qui oui, avait vous une aviez, dernière question.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Écoutez, je suis une grande lectrice d'Alter Echo, donc vraiment bravo d'être rédactrice en chef de cet excellent journal. La question que je voulais vous demander, vous avez beaucoup parlé de politique publique et c'est vrai qu'on y arrivera par là, mais enfin, vu l'impasse et la lenteur dans la face à laquelle on est depuis 50 ans, c'est un peu terrible. On enseigne le SS depuis l'économie sociale et solidaire depuis très longtemps et on voit encore face à nous des gens qui n'ont pas compris. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail didactique à faire. Mais j'aimerais vous poser une question par rapport à tout ce qui est produits économiques tels qu'on les trouve dans les banques, par rapport à des produits verts, des produits incitatifs à une transition écologique, que tout le monde mette son argent sur des fonds privés aussi qui aillent vers une reconversion. Alors on retrouve les mêmes grands du CAC 40, hein, c'est Danone, Nestlé, Total, Bouygues, etc., mais qui sont en train de produire des produits économiques
économique autre qu'effectivement les grosses productions de type surproduction qu'on trouve dans les grandes surfaces et autres cancérigènes. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez comme vision par rapport à cet double aspect?
Merci, c'est intéressant, mais ça rouvre peut-être sur une autre question. Ce que je vous propose peut-être, vu l'heure, c'est que vous répondiez chacun, peut-être en intégrant des premières réponses à la question, mais aussi un peu votre conclusion, peut-être en termes de recommandations, notamment puisque le constat, on l'a déjà pas mal exploré. Donc, qui veut commencer? Chacun de 2 minutes, quoi. C'est à peu près le temps qu'on a, c'est 2-3 minutes alors, chacun. Julien Côteville, vous voulez prendre la parole?
Oui, ben, en recommandation, et puis bon, c'est vrai que ça participe aux discussions tout à l'heure. Du coup, alors effectivement, les pouvoirs publics, mais l'individu est acteur et la sobriété, alors on en parlait dans les autres conférences, les autres tables rondes que je regardais, mais voilà, la sobriété de la pollution chimique passe par l'individu et du coup, on doit commencer à construire du mimétisme de l'indifférence au lieu de jalouser et d'acheter le produit parce que son voisin le possède, plutôt réfléchir à imiter le fait qu'il n'en veuille pas. Alors en termes de politique publique, bon, ben, on a une stratégie nationale perturbateur endocrinien numéro 3 qui arrive, on a un PNSE4, du coup bon, ben, c'est toujours c'est un peu toujours les mêmes réflexions que André et moi on peut dire, donner des moyens à ces plans-là pour essayer d'accélérer cette thématique, même si bon, ben, c'est quand même des plans qu'on n'a pas ailleurs en Europe et du coup on est quand même un bien en avance par rapport à d'autres pays sur ces thématiques-là. Alors articuler la santé et l'environnement en tenant compte des inégalités environnementales et comment elles s'articulent avec les inégalités sociales et du coup ce qu'on a vu avec le Covid et notre One Health, c'est qu'on a une notion de résilience des territoires. Et du coup, une capacité des territoires à se remettre d'un impact. Et également, ce qu'on a vu, c'est peut-être le rapport aux institutions. On va avoir des populations qui refusent les injonctions, les propositions qui sont faites. Donc, articuler inégalité environnementale, sociale, résilience des territoires et vulnérabilité des individus. Voilà ce que je peux dire. Et je n'ai pas du tout d'avis sur la question que vous avez posée, par contre, je suis désolé.
Il faut parler dans le micro parce que
sinon on n'entend pas. On entendra. Ceux qui nous écoutent en ligne n'entendraient pas, donc il faut le micro. Est-ce que.
Oui, vous parliez de l'union public-privée,
oui.
En fait, du lien.
Oui, du rapport entre public et privé, oui. Oui, voilà. Bon. Merci.
En vous écoutant, je pensais à l'ancien PDG de Danone hein, qui a été remercié, c'est-à-dire mis à la porte, en fait, même si ça a été de façon confortable, parce qu'il avait saisi effectivement que voilà, il ne pouvait pas continuer sur ce modèle de l'industrie agroalimentaire. Voilà. C'est un pionnier en son genre. Mais effectivement, on sent que ça commence à bouger, y compris à des niveaux comme cela. Pourquoi il a été viré? Parce qu'il n'offrait pas du 15% de rentabilité, hein, comme Nestlé. Voilà, c'est totalement aberrant. 15% de rentabilité, personne, les économistes d'ailleurs le disent. Hein, on le dira encore mieux que moi. Voilà. Donc il faut changer effectivement. Alors il y a des tentatives pour introduire ces dimensions-là dans la notion d'entreprise à mission. Voilà. Peut-être l'enjeu aussi vient du développement des coopératives aussi. Hein, voilà, parce qu'on est, on est prisonnier d'un modèle d'entreprise. Pas la seule façon, effectivement. J'ai beaucoup apprécié l'intervention liminaire d'Éloi, quoi. Ça, on est dans un modèle, effectivement, qui a 40 ans d'âge, en fait, hein, qui est le modèle néolibéral dont on sort. Mais à quel prix, hein? Mais voilà, il faut effectivement inventer. Et c'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire... Mais c'est comme ça aussi qu'il faut faire changer la politique. C'est compliqué, effectivement, d'arriver à faire bouger les échelons politiques. Et plus l'échelon est élevé, plus il est éloigné de... Et vous voyez, quels ont été les thèmes présents dans la campagne présidentielle? La demande était effectivement autour de santé, pouvoir d'achat. Ça n'a pas été un petit peu plus pouvoir d'achat que santé, mais en fait, la question de la relation à l'islam, je veux dire, c'est quand même pas l'essentiel quand même, hein, vraiment. Or, c'est ça qui a été porté, voilà. Donc, il y a une vraie bataille aussi à ce niveau-là pour que les citoyens s'emparent. Alors, l'autre aspect, c'est l'action au niveau local, penser globalement, agir localement. Voilà, ça reste vrai. Quand on lance la campagne Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens, eh bien, voilà, les collectivités locales peuvent s'en emparer. Si vous êtes sur Paris, Paris a signé la charte, mais ils n'ont pas été très proactifs, je dirais, hein, d'ailleurs. Voilà. On a une petite campagne sur l'Est parisien. Voilà, si ça vous intéresse de porter un bracelet en silicone pendant 7 jours, eh bien, voilà, on vous donnera votre taux de phtalate. Mais il faut une démarche collective, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle la notion d'éco-ambassadeur, des gens qui... Voilà. Effectivement, c'est des actions comme celle-là. Il faut mener à la fois l'action à tous les niveaux. Et je pense que c'est comme ça qu'on va sortir de cette crise. Il n'y a pas de fatalité.
J'en profite juste pour glisser un tout petit mot. Vous parliez d'économie sociale et solidaire, l'ESS, et de coopérative, pour dire que Vox Europe est donc la première coopérative européenne de presse, dont je suis la cofondatrice, très fière, et Alternative Économique, une SCOP qui a fêté ses 40 ans. Voilà, c'est tout. À vous.
Mais pour être rapide, parce que je rejoins largement les conclusions, et notamment celle de Julien, peut-être redire en effet l'importance de prendre en compte les enjeux des inégalités sociales dans ces questions. Aujourd'hui, c'est clairement pas suffisamment le cas encore. Donc ce point-là, et puis voilà, forcément, étant l'UNICEF, je redirais quand même de repenser aussi davantage la société autour de l'enfant, et pas seulement de le prendre par morceaux. Un coup, c'est un élève, il est à l'école, et puis après, c'est certains problèmes de santé, sans regarder globalement le monde dans lequel vit l'enfant. Et puis rappeler aussi que ce qu'on fait ici a un impact sur des enfants très loin. Donc voilà, je pense que c'est important de le rappeler ici.
Un grand merci à vous trois pour tous les éléments que vous avez apportés à ce débat. J'espère que vous l'avez apprécié, très riche. Merci beaucoup, Jody Sauré, Julien Caudeville et André Sicolella, pour tout ce que vous nous avez apporté. Vous avez cité pas mal de rapports. J'imagine qu'on peut tous les trouver en ligne ou en grande partie. Voilà, donc ils ont été cités. Vous pouvez revoir la conférence puisqu'il y a une captation. Et je remercie beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés de loin et tous ceux qui nous ont écoutés de près. Merci beaucoup.
Voilà. Je remercie Catherine André d'avoir si bien mené les débats. Donc, je vous invite à retrouver la captation de la rencontre de ce soir grâce à nos techniciens, que je remercie aussi, c'est un peu les Césars ce soir. Vous invitez à retrouver les trois autres rencontres qu'on avait programmées avec Éloi Laurent, donc sur croissance et climat, confiance et inégalité sociale et Europe et transition écologique. Il y a un petit break d'été, bien mérité, et on reprendra l'écho du monde à partir du mois d'octobre. Donc vraiment, merci à nos quatre intervenants et très bonne soirée à vous.